Directement, je veux le Radio Insolite. Allez, on n'est pas encore là-bas et pourtant dans nos têtes, on y est déjà impatients de rejoindre cette nouvelle édition du Festival Off d'Avignon qui a une originalité cette année, je vous rappelle. C'est que ce sont les mêmes dates que le Festival In, donc on n'aura pas besoin de courir à la fin pour dire « Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini ». Et on va retrouver des valeurs sûres, des gens que moi personnellement j'adore, avec des moments de détente, de plaisir et en plus des moments pédagogiques, puisqu'avec toi Alexandre, moi j'apprends plein de choses. Bonjour Alexandre.
Bonjour Alain.
Alors, comment faut-il te présenter? Tu es musicien, chanteur, ténor, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, hein, c'est bien toi.
J'aimerais bien, c'est mon rêve en plus. Tu parles de mes fantasmes, là c'est pas sympa.
Ah bah c'est... Si j'attaque avec tes fantasmes, c'est parfait alors. Bon, alors, comment il faudrait te présenter? Tu es...
Comédien,
metteur
en
scène, auteur, écrivain, enfin, vas-y, je te laisse te présenter tout seul comme un grand.
Alors, en dehors des mises en scène que j'aime beaucoup faire, je me sens comédien et auteur. Voilà, je me sens vraiment auteur et souvent j'écris des choses que je ne comptais pas incarner et puis le hasard, ou plutôt mon espèce d'exigence ou de je ne sais quoi, me fait jouer ce que j'écris.
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que, encore, entre guillemets, virgule, à ton âge, il n'y a rien de méchant dans le propos, tu as encore les yeux qui pétillent comme ça? Parce que ça me fascine quand je te vois monter sur scène. Oh, mais tu es habité par tes personnages, c'est incroyable.
Alors écoute, si tu veux faire ma psychanalyse, je vais te dire que je suis beaucoup plus. Je me sens beaucoup plus vivant sur scène que dans la vie. C'est quand même rare de jouer, donc on est dans une année, on n'est pas beaucoup d'heures sur scène en réalité. Oui. Bah, tout est concentré là-dedans. C'est vrai que voilà, ma vie elle passe un petit peu en second plan. Enfin, j'ai l'impression de vivre quand je suis sur scène. Et puis, il faut dire que j'ai la chance d'avoir aucune ambition. C'est-à-dire que j'ai pas eu de plan de carrière ou tout ça. J'ai toujours fait ce que je voulais. Et du coup. Bah, chaque fois que je joue, c'est parce que je l'ai décidé. Si je regarde mes dates de tournée et tout ça, bah, je concentre ça sur des périodes précises. Puis il y a plein de périodes que je garde pour moi. Mmh. Voilà. Donc, c'est ça la clé du bonheur.
Et est-ce que c'est surtout les sujets que tu traites? Parce que tu ne traites pas n'importe quel type de sujet à chaque fois.
Ah, évidemment, c'est aussi une autre forme de liberté. C'est que j'ai la chance d'écrire ce que je joue.
Oui.
Ce qui fait que bah, les sujets me tiennent très à cœur. C'est beaucoup l'injustice qui me meut, moi, personnellement, et j'aime beaucoup l'histoire. Alors, j'essaye souvent de mêler les deux. Je choisis des personnages, de parler de personnages qui ont vécu une grosse injustice, qui ont été très mal aimés, voire dont l'histoire a changé le cours. Enfin, voilà. J'aime bien les révolutionnaires, aussi incompris. Alors, c'était pour ça que Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, c'était pour dire vraiment... à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque. En plus, il était allemand, rejeté, bon, etc., finalement. Mmh. Et le scandale du Panama a fini, une fois pour toutes, de ternir son image. Mmh. Donc, il fallait le réhabiliter un petit peu, parce que c'est un ingénieur génial qui a osé. Et puis là, sur Pharaon, c'est-à-dire l'histoire d'Akhenaton, que certains disent Akhenaton le poète ou Akhenaton le maudit, selon les versions, mais... Akhenaton, c'est aussi un pharaon qui mérite d'être connu, beaucoup plus que son fils Toutankhamon ou Néfertiti parce qu'elle est jolie. Il y a quand même Akhenaton, c'est l'emblème du monothéisme, de la beauté, de révolution de la société à l'époque. Il a amené quelque chose de très très moderne. Et voilà, il fallait parler de ce pharaon aussi spirituel que... politiquement très moderne, je dirais décalé pour l'époque.
Ce sont deux univers complètement différents, Gustave Eiffel et puis Akhenaton. Ce n'est pas la même période non plus. On est 3200 ans d'intervalle, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Akhenaton, c'est à peu près 1500 avant Jésus-Christ. Donc, c'est la 18e dynastie des pharaons. C'est la grande famille qui a duré quelques siècles. Mmh. La grande famille de ces pharaons bâtisseurs, c'est-à-dire le temple de Karnak, de Louxor, la vallée des rois, tous ces pharaons qui ont Hatshepsut, Toutmosis, Voilà, tous ces Aménophis, enfin tous ces grands pharaons qui ont fait la grandeur de l'Égypte. Malheureusement, une famille un petit peu dégénérée sur le tard, donc Akhenaton en fait partie, Toutankhamon n'a pas d'enfant. Et là arrive une 19e dynastie, les reconquérants, c'est-à-dire ceux qui vont s'attacher à faire la guerre, c'est les Sétis, les Ramsès. Donc la 18e et 19e dynastie, c'est deux familles très importantes pour l'Égypte, les plus importantes, et Akhenaton est à cette charnière, c'est-à-dire qu'il va créer la première guerre de religion, on peut dire, ce qui va bouleverser complètement sa société et le monde, j'ai envie de dire, le monde occidental en tout cas. Et donc voilà, il faut connaître ce pharaon parce que on connaît son fils pour ce trésor fabuleux qui a été découvert, mais le père est tellement plus intéressant.
Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a l'impression, quand même, quand on suit l'actualité d'Akhenaton, que c'est encore du jour, quoi. On parle de guerre de religion, on parle aussi, comment dire, ben, de coup d'État. On a l'impression que rien n'a changé depuis.
Ah ben c'est exactement ça. Là on est en plein coup d'État, on peut dire, tu l'as bien dit, parce que on va assister à la dernière heure de son règne. Donc dans une heure, il sera démis de ses fonctions de pharaon, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, par ses deux ministres les plus importants, ceux qui vont d'ailleurs être nommés pharaon à sa place à l'avenir, parce que il était considéré comme inapte, débile. Peut-être trop poète, peut-être trop efféminé. Voilà, mais en fait, il était alors relativement androgyne, ça c'est vrai. Il avait une maladie physique aussi qui le rendait un peu difforme. Mais pour autant, son enseignement, on va dire, sur la nature, l'écologie, l'amour, bon, peut-être une espèce de message de Christ. Pas du tout croyant, mais je pense on reconnaît bien là le message christique.
D'accord. Le spectacle s'appelle Pharaon. Attends, zut. Ça y est.
Ça s'appelle Pharaon, Akhenaton le maudit.
D'accord. Ok.
Pour préciser qu'on parle d'Akhenaton, ce pharaon qu'on dit maudit.
D'accord.
Mais on va revoir d'une manière générale l'Égypte ancienne, on va reparler de tous ces dieux à tête d'animaux, comment vivent les gens, comment leur dévotion aussi pour leur pharaon qui est l'incarnation de Dieu sur Terre, enfin d'un Dieu
Bah,
sur Terre,
logiquement,
le
oui.
Dieu. Voilà, donc. C'est pas uniquement Akhenaton, c'est tout le contexte et puis c'est tous ces siècles de grandeur de l'Égypte.
Tu donnes toujours la parole à des gens qui ont un message important à faire passer, qui ont marqué leur temps.
Ah, c'est ce que j'aime. Ah, c'est ce que j'aime parce que souvent c'est parlant, je veux dire, l'histoire se répète. Et puis là, je suis en train d'écrire sur le procès Fouquet, donc la rivalité entre Fouquet et Colbert à la cour de Louis XIV. C'est passionnant sur la création du système monétaire actuel, sur la dépendance de l'État pour le monde financier, toujours la corruption bien sûr, hein, comment est née la monarchie absolue avec Louis XIV à la suite de Mazarin en 1661 en gros, voilà, comment est née même l'idée de Versailles après la suite de Vaux-le-Vicomte chez Fouquet. Voilà, bon, c'est encore une autre période, mais je trouvais ça intéressant, à travers cette petite, entre guillemets, histoire du procès Fouquet, de raconter comment fonctionne le système monétaire, par exemple. Alors, ça paraît rébarbatif, mais ça l'est pas du tout. C'est très, ça permet de bien comprendre comment on fonctionne aujourd'hui.
C'est justement, quand même, je trouve qu'on apprend plein de choses quand on vient voir tes spectacles. C'est une manière différente de découvrir l'histoire, d'apprendre l'histoire même.
Ben, moi je le fais pas pour ça, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Il y a le radeau de la Méduse en ce moment
J'allais
qui
en
tourne à
parler,
la
oui.
Comédie Bastille. Voilà, et c'est vrai que, alors là c'est différent des autres spectacles parce que c'est une comédienne, donc Anne Cangelosi, qui joue une conférencière qui nous parle d'un tableau. Et c'est à travers cette conférencière qu'on va rentrer dans l'histoire de ce tableau.
Exact.
On est dans la restauration, là, donc début 19e, avec restauration de Louis XVIII, la restauration de la monarchie, qui pose de gros problèmes, et puis en même temps, bah, l'esclavage, qui est toujours là, la traite des Noirs, vient d'être abolie, mais pas l'esclavage. Ce tableau marque aussi la grandeur du peintre Géricault, qui est le maître du romantisme, en peinture en tout cas. comme Victor Hugo peut-être en littérature, mais Géricault raconte donc l'injustice de ce naufrage qui a eu lieu, ce tableau gigantesque là qu'on voit au Louvre, qui est assez marquant, et parce qu'il est il raconte une histoire dramatique, mais qui raconte un naufrage de la France en réalité. Naufrage politique de la monarchie, on peut dire.
Mais ça, c'est bien de le découvrir, parce que c'est vrai, moi j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui me dit « Oh, c'est juste qu'un bateau quand même, qui a coulé, et puis des gens qui sont montés sur un radeau. » Là, je me suis retrouvé un peu tout bête à dire « Le radeau de la Méduse, c'est une drôle de manière de résumer ça, quoi. C'est tout, il y a plein de choses à côté. »
Il y a plein de choses, ça raconte quand même, je parlais de traite des Noirs, mais ça raconte aussi parce qu'en fait c'est une histoire, c'est une espèce de Titanic, le radeau de la Méduse, qui a donc coulé, on venait de récupérer le Sénégal, la France venait de récupérer le Sénégal, et donc on envoie son gouverneur avec son trésor et puis ses officiers, ses militaires, tout ça pour aller gouverner au Sénégal. Et ce gouverneur, qui est donc monarchiste, qui n'a donc pas navigué depuis 25 ans, puisqu'il soutenait le roi jusqu'en 1789, mais après. Et donc, voilà, il y a un naufrage, et on abandonne les militaires sur un radeau. Ils sont 150. Évidemment, les militaires sont des révolutionnaires, eux, ce ne sont pas des monarchistes. Mmh. Bon. Donc, il y a une espèce de guerre civile qui se crée sur ce bateau, encadrée par des officiers monarchistes, mais bon, pas très nombreux. Mais qui, comme par hasard, sont les seuls survivants de ce naufrage. Et sur ce tableau, on voit plein de choses. On voit le cannibalisme qui a eu lieu pendant ces 13 jours de dérive. On voit les monarchistes, on voit les esclaves, on voit que ce héros qui est au-dessus, qui vous vous souvenez, il brandit un drapeau rouge, d'ailleurs, c'est-à-dire révolutionnaire, sur un tonneau. Ce héros, qui est le premier héros inconnu de l'histoire, hein, d'habitude on peignait la bourgeoisie, des gens connus, etc. Bon, là c'est le premier héros sans nom et sans visage, comme on dit, et il est noir, ce qui est une énorme polémique pour l'époque. Je m'arrête là parce que sinon on va parler une heure du radeau de la Méduse, ce qui est passionnant.
Tout à fait. Dis-moi par contre, c'est plus facile d'écrire sur des choses qui sont il n'y a pas très longtemps que sur l'histoire d'Akhenaton qui date, comme on a dit, de plus de 3200 ans. C'est quoi ton inspiration? Tu vas à la Bibliothèque nationale de France, tu es parti en Égypte, tu as interrogé.
J'ai été en Égypte 20 fois.
Ah d'accord.
Donc 20 fois, parfois plus d'un mois, donc assez longtemps parfois. Mais je pourrais parler d'Akhenaton comme je pourrais parler de toutes nos histoires, etc. J'en connais beaucoup sur l'Égypte. Mais oui, c'est beaucoup de bouquins, beaucoup de documentation, je dirais des années de lecture et de conclusion, on va dire, parce que chaque auteur a toujours un peu son idée sur la chose, mais moi j'aime bien synthétiser tout ça et prendre le temps de ressentir les choses, pour me dire c'est ma version la vraie.
Oui, parce qu'on peut se poser des questions. Quand on voit qu'on découvre encore comme il y a des tombeaux il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, on peut se demander si on a vraiment toute la réalité de ce qui s'est passé à cette époque-là, quoi.
Ah, ça, on ne le saura jamais. L'histoire n'est qu'une interprétation. Mais en tout cas, moi, cette version-là, j'y crois. Et lors de la création, c'était à la maison du berger à Limoges. On avait un égyptologue dans la salle qui dirigeait le département égyptologie du musée de Limoges, et qui est sorti de là en disant il était ébahi par la dose de connaissances que j'avais, ce qui n'était pas tout à fait le cas en vrai, mais en tout cas sur la vérité qui était annoncée là. C'est-à-dire qu'il disait c'est incroyable comme tout est très logique avec vous, alors que c'est vrai que ce qui est écrit qui est beaucoup plus pointu que ce que je dis, pour autant, se tient pas toujours. C'est des interprétations. Et il a dit, la vôtre, elle est très claire, elle est très logique, c'est possible. Ce que vous dites d'incroyable, parce que j'ai quand même un petit secret dans le truc, c'est incroyable. Il disait, c'est forcément vrai, en fait. Bon, je te laisserai découvrir ça, mais...
Complètement, oui, puisque je vais me faire plaisir. Alors justement, où est-ce qu'on va pouvoir voir le spectacle?
Alors, donc, je termine juste ce que je voulais dire avant.
Pardon,
que tout ça, on est sur l'histoire. Non, tu as raison, mais c'est juste que il me semblait qu'il y a un élément dont je n'ai pas parlé, qui était le fait de jouer. Parce que Bon, j'écris, donc évidemment, ça prend du temps et tout, forcément plus de temps que de monter le spectacle, on va dire. En revanche, là où je mets vraiment l'accent, pour moi, c'est les émotions des personnages, les émotions qu'on va partager ensemble. On va passer du rire aux larmes en permanence parce que c'est comme ça que je veux toucher les gens, parce que en fait, c'est la vie, tout simplement. Et le jeu, donc, est toujours très important dans les spectacles. C'est pas uniquement la documentation.
Tout à fait.
Ah bah alors, donc, je vais jouer, c'est au Petit Louvre, à 10h, à 11h45, pardon, la salle Van Gogh, donc, du Petit Louvre, relâche les mercredis. Et pour ce qui concerne Pharaon, relâche aussi les jeudis, puisque les jeudis, je joue exceptionnellement trois fois, donc, Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Donc, les jeudis, c'est Gustave Eiffel. Et ensuite, du vendredi au mardi, c'est Pharaon, Akhenaton, le maudit.
D'accord, ok. Et donc on te retrouve en Avignon évidemment pour le mois de juillet.
C'est du 5 au 26 juillet.
Et là on va pouvoir se faire plaisir. Puis ce qui est passionnant aussi, là je le dis aux auditeurs parce que ça c'est un truc qui est très important, c'est que à la fin du spectacle, tu viens rencontrer quand même les spectateurs. Et ça je trouve ça génial parce qu'il y a possibilité d'échanger et
Ah
c'est
oui.
vraiment authentique et sincère quoi.
Ah oui, bah, moi je fais tout ça pour les gens, donc j'aime les gens. On peut rester des heures après.
Ok, parfait. Mais écoute, moi je veux te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour vous expliquer tout cela. Vous avez vu que vous allez taper
Avec
Alexandre
plaisir.
de Limoges sur la toile. Vous allez trouver tous les spectacles. N'hésitez pas à vous faire plaisir, allez voir tous. Et puis programmez-vous celui qui arrive, là, le fameux Pharaon. Et puis on va peut-être savoir, grâce à toi, si notre cher Fouquet a été le masque de fer, puisqu'on ne sait toujours pas qui c'est. Et il y a des
Alors, on
rumeurs
sait que
disant
c'est
que
pas
c'est.
lui.
Hein?
Non, non, c'est pas lui, c'est pas lui.
Ah, mais c'est pas lui.
Il
Bon,
a peut-être, non, il a peut-être été empoisonné par le masque de fer, Fouquet.
D'accord.
Ça, c'est possible.
Moi, je me rappelle quand j'étais sur l'île, hein, c'était le gros point d'interrogation. Qui était
Ah,
derrière?
ok.
C'est tout. En tout cas, merci à toi, puis plein de bonnes choses, et puis à très très vite, j'espère.
Et merci beaucoup, merci Alain. À bientôt.